Nous lirons encore quelques passages de l'Ancien Testament dans le livre du Deutéronome, au chapitre 33e du livre du Deutéronome, verset 1er. C'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Et il dit, l'Éternel est venu de Sinaï et s'est levé pour eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran et est venu des saintes myriades. De sa droite sortit une loi de feu pour eux. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main. Ils se tiennent à tes pieds, ils reçoivent tes paroles. Moïse nous a commandé une loi, héritage de la congrégation de Jacob. Il a été roi en Jésurun quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël. Au verset 21e, et il s'est choisi la première partie du pays, car là était réservée la part du législateur. Et il est allé avec les chefs du peuple. Il a accompli avec Israël la justice de l'Éternel et ses jugements. Et au chapitre 34e, au verset 10, « Et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse, que l'Éternel ait connu face à face selon tous les signes et les merveilles que l'Éternel l'envoya faire dans le pays d'Égypte contre le Pharaon et tous ses serviteurs et tout son pays, et selon toute cette main forte et selon tous les terribles prodiges que fit Moïse aux yeux de tout Israël. » En second passage au premier livre de Samuel, au chapitre 9e, 1 Samuel chapitre 9, au verset 5e, quand ils furent venus dans le pays de Tsuf, Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens et retournons-nous-en, de peur que mon père n'ait cessé de penser aux ânesses et qu'il ne soit en peine de nous. » Et il lui dit, « Voici, je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit arrive infailliblement. Allons-y maintenant, peut-être nous enseignera-t-il le chemin par lequel nous devons aller. » Et Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme ? Car le pain manque dans nos sacs et il n'y a pas de présent à porter à l'homme de Dieu. Qu'avons-nous avec nous ? » Et le serviteur répondit de nouveau à Saül et dit, « Voici, il se trouve que j'ai en main le quart d'un sicle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu. » Et il nous enseignera notre chemin. Autrefois en Israël, un homme, quand il allait consulter Dieu, disait ainsi, « Venez et allons vers le voyant, car celui qu'on appelle prophète aujourd'hui se nommait autrefois le voyant. » Et Saül dit à son serviteur, « Tu dis bien, viens, allons. » Et ils allèrent à la ville où était l'homme de Dieu. Et à la fin de ce chapitre, au verset 27e, comme il descendait au bout de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis au jeune homme qu'il passe devant nous. » Et il passa. « Et toi, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Un troisième passage pour suivre l'ordre chronologique dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 8e du deuxième livre des Chroniques, au verset 14, 2 Chroniques 8, verset 14. Et Salomon établit, suivant l'ordonnance de David, son père, les classes des sacrificateurs dans leur service et les Lévites dans leur charge pour louer et pour faire le service devant les sacrificateurs selon l'œuvre de chaque jour, et les portiers dans leur division à chaque porte, car tel avait été le commandement de David, homme de Dieu. Et toujours, pour suivre l'ordre chronologique, nous revenons un peu en arrière, premier livre des rois. Au premier livre des rois, au chapitre 12e, verset 21 du chapitre 12 du premier livre des rois. Et Roboam s'en alla à Jérusalem, et il assembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour faire la guerre à la maison d'Israël, afin de ramener le royaume à Roboam, fils de Salomon. Et la parole de Dieu vint à Shemaïa, homme de Dieu, disant, « Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, disant, « Ainsi dit l'Éternel, ne montez pas, et ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d'Israël, retournez chacun à sa maison, car c'est de par moi que cette chose a eu lieu. » Et ils retournèrent pour s'en aller, selon la parole de l'Éternel. Dans le même premier livre des rois, au chapitre 17e, au verset 17, 1 roi 17, verset 17. Et il arriva après ces choses que le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie devint très forte, de sorte qu'il ne resta plus de souffle en lui. Et elle dit à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour mettre en mémoire mon iniquité et faire mourir mon fils ?» Et il lui dit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit de son sein et le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Et il cria à l'Éternel et dit, « Ô Éternel, mon Dieu, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils ?» Et il s'étendit sur l'enfant trois fois, et il cria à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui. » Et l'Éternel écouta la voix d'Élie et fit revenir l'âme de l'enfant au-dedans de lui, et il vécut. Et Élie prit l'enfant et le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils vit. » Et la femme dit à Élie, « Maintenant, à cela je connais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est la vérité. » Au deuxième livre des rois encore, au chapitre 8e du deuxième livre des rois, au verset 7, 2 rois 8, verset 7. Élisée vint à Damas, et Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on lui rapporta disant, « L'homme de Dieu est venu jusqu'ici. » Et le roi dit à Hazaël, « Prends dans ta main un présent et va à la rencontre de l'homme de Dieu. » Et consulte par lui l'Éternel, disant, « Relèverai-je de cette maladie ?» Et Hazaël alla à sa rencontre, et prit dans sa main présent de toutes les bonnes choses de Damas, la charge de 40 chameaux. Et il vint et se tint devant lui, et dit, « Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'a envoyé vers toi, disant, « Relèverai-je de cette maladie ?» Élisée lui dit, « Va, dis-lui, certainement tu en relèveras. » Mais l'Éternel m'a montré qu'il mourra certainement. Et il arrêta sa face et la fixa sur lui, jusqu'à ce qu'il fût confus. Puis l'homme de Dieu pleura. Et Hazaël dit, « Pourquoi, mon Seigneur, pleure-t-il ? » Et il dit, « Parce que je sais le mal que tu feras aux fils d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes âmes, tu écraseras leurs petits enfants, tu fendras le ventre à leurs femmes enceintes. Et Azaël dit, mais qu'est ton serviteur, un chien, pour qu'il fasse cette grande chose? Élisée dit, l'Éternel m'a montré que tu seras roi sur la Syrie. Et il s'en alla avec Élisée et vint vers son maître. Et Ben-Hadad lui dit, que t'a dit Élisée? Et il dit, il m'a dit que certainement tu en relèveras. Et il arriva le lendemain qu'il prit la couverture, la plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi. Et il mourut. Et Azaël régna à sa place. Encore un passage dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 35. Jérémie 35, la parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, disant, va à la maison des Récabites et parle-leur, et amène-les dans la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et verse-leur du vin. Et je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Abatsinia, et ses frères, et tous les fils, et toute la maison des Récabites. Et je les amenai dans la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, qui était à côté de la chambre des princes, laquelle était au-dessus de la chambre de Maaseïa, fils de Shallum, gardien du seuil. Et je mis devant les fils de la maison les récabits des gobelets pleins de vin et les coupes, et je leur dis, buvez du vin. Et ils dirent, nous ne boirons point de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a commandé, disant, vous ne boirez point de vin, ni vous, ni vos fils, à toujours. Et vous ne bâtirez pas de maison, et vous ne sèmerez pas de semences, et vous ne planterez pas de vigne, et vous n'en aurez point, mais vous habiterez dans des tentes tous vos jours, afin que vous viviez beaucoup de jours sur la face de la terre où vous séjournez. Et nous avons écouté la voix de Jonadab, fils de Récab, notre père, dans tout ce qu'il nous a commandé, pour ne pas boire de vin tous nos jours, ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles, et pour ne pas bâtir des maisons pour notre demeure, et pour n'avoir ni vigne, ni champ, ni semailles. Et nous avons habité dans des tentes, et nous avons écouté, et nous avons fait selon tout ce que nous a commandé Jonadab, notre père. Et un dernier passage dans le Nouveau Testament, dans la première épître à Timothée. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 6e, 1 Timothée 6, verset 9. Ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux, qui plonge les âmes dans la ruine et la perdition, car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé, et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant Dieu qui appelle toutes choses à l'existence, et devant le Christ Jésus qui a fait la belle confession devant Ponce Pilate, que tu gardes ce commandement sans tâche, irrépréhensible, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux est seul souverain, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun des hommes n'a vu ni ne peut voir, auquel soit honneur et force éternelle. Amen. Jusque-là. Les passages que nous avons lus, chers amis, sont ces passages qui nous parlent de ces différents hommes de Dieu, de l'Ancien Testament. Comme il a été dit un de ces soirs, nous ne disons pas qu'il soit parlé seulement de sept hommes de Dieu, mais il est parlé de beaucoup d'hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, mais sept seulement nous sont connus de leur nom. C'est le cas donc pour Moïse, pour Samuel, pour David, pour Shemaïa, pour Élie, pour Élisée et pour Gigdalia. Quant au Nouveau Testament, eh bien, Timothée seul est appelé de ce nom, homme de Dieu. Moïse est le premier serviteur de Dieu qui a reçu une telle qualification, une telle épithète, homme de Dieu. Nous avons lu au livre du Deutéronome, au chapitre 33, c'est ici la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Il y a cinq passages qui nous parlent de Moïse, homme de Dieu. Celui-ci, Josué 14, puis 1 Chronique 23, 2 Chroniques 30 et Esdras 3. Plus la suscription du psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Dans ce passage, ce premier passage que nous avons lu, il nous est donc parlé de cette admirable bénédiction de Moïse, homme de Dieu, que nous avons tout au cours de ce chapitre 33. Et il commence cette bénédiction en rappelant une des grandes interventions de Dieu à l'égard de son peuple. En fait, au début de l'histoire de ce peuple, il y a deux interventions de Dieu remarquables qui sont restées dans le souvenir des enfants d'Israël. La première intervention est la délivrance du peuple d'Israël hors de l'Égypte. Et la deuxième intervention à laquelle peut-être nous pensons moins souvent, et cette venue de Jéhovah lui-même pour donner, par l'entremise de Moïse, une loi à son peuple. D'après le chapitre 19 du livre de l'Exode, nous avons cette apparition glorieuse de Jéhovah au chapitre 19 où une loi très sainte, très juste et très bonne est donnée au peuple d'Israël. Cette glorieuse intervention de Dieu, nous l'avons également au Cantique de Déborah. Dans le Cantique de Déborah, il est dit, au début de ce cantique, il est rappelé cette venue glorieuse de l'Éternel en parent. Et le prophète Habacuc, au début de sa prière, au chapitre 3 de son livre, rappelle également cette glorieuse venue de Jéhovah pour donner une loi à son peuple. Il est donc venu des saintes myriades et de sa main est sortie une loi de feu. Quelle expression, chers amis. Une loi de feu, c'est-à-dire que la loi serait un ministère de condamnation et de mort. Une loi de feu. Voilà ce que serait la loi. Elle n'a pas été autre chose, chers amis. La loi condamne. La loi fait mourir, la loi tue le transgresseur, la loi ne donne pas la vie, la loi ne donne aucune force pour l'accomplir, la loi exige, mais elle ne donne rien. L'amour de Dieu donne. Le Seigneur Jésus a pu dire à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu. » Que veut dire ce passage ? Le don de Dieu, ce n'est pas seulement le don du Fils de son amour, mais c'est le grand fait que Dieu par excellence est le donateur. Dieu aime à donner. Il nous a donné le Seigneur Jésus, il nous a donné sa parole, il nous a donné son esprit. Dieu aime à donner. Dieu est celui qui donne. Tandis que la loi exige. Elle exige, et si l'on ne répond pas aux exigences de la loi, eh bien, on meurt. La loi tue le transgresseur. Plusieurs passages dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Hébreux, nous rappellent cela. Que la loi ne pouvait pas faire autre chose que d'exiger la mort du transgresseur. Mais remarquez, chers amis, ce contraste tout aussitôt établi avec le verset 3. Fin du verset 2, de sa droite sortit une loi de feu pour eux. Puis, verset 3, oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se tiennent à tes pieds, ils reçoivent tes paroles. Oui, il aime les peuples. D'un côté, la loi qui exige, une loi de feu, une loi qui consume et qui fait mourir. Et d'un autre côté, l'amour de Jéhovah. Oui, il aime les peuples. On a lu plusieurs passages hier soir dans le livre du Deutéronome où nous est particulièrement parlé de l'amour de Dieu pour son peuple, certainement bien davantage que dans les autres livres du Pentateuque. Oui, il aime les peuples, plus exactement les tribus de son peuple. Dans le chapitre 4e du livre des Actes, lors de la prière des apôtres, à la fin de ce chapitre, il est parlé des peuples d'Israël, dans le sens des tribus d'Israël qui se sont élevées contre le Seigneur Jésus. Fin d'acte 4, il est parlé et les peuples d'Israël et les nations conduites par Ponce Pilate se sont élevées contre ton saint serviteur Jésus. Eh bien, ici, il est parlé donc des tribus du peuple de Dieu, objet de son amour. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se tiennent à tes pieds. Ils reçoivent tes paroles. Dans ce chapitre 33e, nous avons trois titres de Moïse. Au premier verset, il nous est parlé de la bénédiction dont Moïse, homme de Dieu, bénit les fils d'Israël avant sa mort. Puis au verset 5e, il nous est dit que Moïse a été roi en Jésus-Rhum, quand les chefs du peuple se réunirent ensemble avec les tribus d'Israël. Il a été roi en Jésus-Rhum. Nous avons vu hier, sauf erreur, que ce que voulait dire ce terme de Jésus-Rhum, il désigne, c'est un titre du peuple d'Israël, objet de tout l'amour de la part de Jéhovah, qui a adopté pour lui-même ce peuple afin de faire de lui, de travailler en lui, de le former pour qu'il devienne ce peuple droit et juste dont il est parlé dans la note au bas de la page au chapitre 32 du Deutéronome. Eh bien, Moïse a été roi. Il a été roi. Moïse a été tel qu'un roi auquel une autorité exceptionnelle avait été confiée pour conduire le peuple d'Israël. Homme de Dieu, roi. Et nous avons tout de suite fait de discerner les deux grandes gloires de notre Seigneur quand nous pensons à Moïse et Aaron. Moïse a été roi en Jésus-Rhum et Aaron a été le souverain sacrificateur. Or, ce sont les deux grandes gloires qui appartiendront à notre Seigneur au jour du millénium selon la prophétie de Zacharie. Le prophète Zacharie dit au chapitre 6e de son livre, dit ceci, au verset 13, « Lui, il bâtira le temple de l'Éternel, et il portera la gloire, il s'assiera et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône. » Sur son trône, il est roi, c'est notre divin Moïse. Il sera sacrificateur, c'est notre divin Aaron. Le Seigneur sera cela à la fin des jours, au jour de la gloire millénaire, il sera cela, divin Moïse, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il sera divin Aaron, le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il ne sera plus seulement sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, comme l'Épître aux Hébreux nous l'enseigne, mais il agira à ce moment-là selon l'ordre de Melchisédek, il sera, ce sera une sacrificature en bénédiction, et comme notre cher frère M. Louis Chaudier aimait à le dire, une sacrificature à double courant, c'est-à-dire Dieu bénissant les âmes et les âmes de la terre bénissant Dieu. Et cela par l'entremise de notre Seigneur glorieux lui-même. Et puis au verset 21e, nous voyons que Moïse a été législateur. Il est parlé de la tribu de Gad, du territoire de cette tribu. C'est là qu'a été enseveli Moïse, dans le territoire de la tribu de Gad. Là, est-il dit au verset 21, était réservée la part du législateur. Il est allé avec les chefs du peuple, il a accompli avec Israël la justice de l'Éternel et ses jugements. Là était réservée la part du législateur. Moïse a été le législateur. Il est celui qui, de la part de Dieu, a communiqué la loi au peuple. Il a été vraiment le législateur, enseveli dans la terre de la tribu de Gad. Voilà pourquoi il est dit, il a été réservé la part du législateur. Et on l'a vu hier soir, on l'a entendu, Moïse est appelé un prophète. Au verset 10 du chapitre 34, il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse. Il a été un prophète, Moïse. Il a parlé de la part de Dieu. Il a parlé au peuple, transmettant les communications qu'il recevait de Dieu. Si nous lisons le livre des Nombres, chers amis, nous verrons combien souvent nous voyons Moïse en prière. Dans certains cas, par exemple le cas de l'impureté des enfants d'Israël qui demandaient à célébrer la Pâque malgré leur impureté, mais une impureté qu'ils reconnaissent, qu'ils confessent, ou bien s'il s'agit de la pensée des filles de Tselophkhad, nous voyons Moïse dire « Attendez, je vais aller vers l'Éternel ». Je veux parler avec l'Éternel, je veux attendre ce qu'il me dira. Et l'Éternel donnait ses 12 communications à son serviteur Moïse, et c'est ainsi qu'il les communiquait aux intéressés ou au peuple d'une façon générale. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse. Moïse a été l'homme qui a parlé de la part de Dieu. C'est ce que veut dire le mot prophète, parler devant. Il parlait devant Dieu, il parlait de la part de Dieu. Il communiquait au peuple les pensées, les désirs et les volontés de Dieu. Et alors, nous pensons tout de suite au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, où Moïse est appelé un serviteur, mais le contraste est tout aussitôt établi avec le Seigneur Jésus lui-même. Moïse a été serviteur au milieu de son peuple, la famille d'Israël, et il a été serviteur, tandis que le Seigneur Jésus, lui, est serviteur sur la famille chrétienne, sur la maison de Dieu. La famille chrétienne est plus que serviteur, comme fils, dit Hébreux 3. La gloire suprême du Seigneur est établie par rapport à celle de Moïse. La gloire de notre Seigneur est infiniment plus grande. Moïse a été serviteur, il a été au milieu, pas au-dessus, au milieu de son peuple. Tandis que le Seigneur n'est pas serviteur, il est fils. Il agit comme fils sur la famille chrétienne. Il a toute autorité sur une telle famille, la famille de Dieu, la famille chrétienne. Retenons, chers amis, ces différents titres accordés à Moïse. Le premier, certainement le plus excellent, homme de Dieu, puis le roi, puis le législateur, puis le prophète, et enfin, Hébreux 3, le serviteur. Voilà tout un ensemble de titres qui mettent en évidence, ce qu'a été Moïse. Cet homme de Dieu, ce serviteur de Dieu, il l'a été, et d'une façon remarquable. Du reste, il est dit que Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Nombre 12 dit, relève, souligne cette fidélité de Moïse, dont aussi nous avons parlé cet après-midi, en rapport avec des hommes fidèles qui aussi soient capables de communiquer les pensées de Dieu. Voilà le premier homme de Dieu nommé dans la parole, c'est Moïse. Il y en a un deuxième, chers amis, c'est Samuel. Au chapitre 9 du premier livre de Samuel, nous avons lu ceci. Il s'agit d'un incident qui est arrivé dans la famille de Saül, c'est-à-dire cette fuite des ânes de Kis, père de Saül. Un beau jour, ses ânes sont partis, elles se sont égarées. Il a été question d'aller à leur recherche, de les retrouver et de les ramener à leur propriétaire. Saül part, il travaille beaucoup, mais sans grand résultat, il part avec son serviteur. Et ce serviteur donne un fort bon conseil à Saül. Au verset 6, il dit, « Voici, je te prie, il y a un homme de Dieu dans cette ville, c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit arrive infailliblement, mais c'est vers lui que nous devons aller. Il nous enseignera le chemin par lequel nous devons aller pour retrouver ces ânes qui se sont égarés. » C'est un homme de Dieu, il est considéré, tout ce qu'il dit arrive infailliblement. Il va venir. À midi, il doit être sur la colline, il doit offrir un sacrifice, un holocauste pour le peuple. Il va venir, attendez un moment. On a attendu un moment, effectivement, Samuel est arrivé, l'homme de Dieu vint. Et pourquoi, chers amis, cet épisode des ânes? En attendant, les ânes ont retrouvé leur chemin, sont rentrés vers leur propriétaire, plus de problème. Pourquoi donc un tel épisode? Ah, c'est que Dieu avait quelque chose à dire à Saül. Saül, à la fin du chapitre, est invité par Samuel à écouter. Écoute, Saül, j'ai quelque chose à dire, mais je voudrais que tu sois tout seul. Je ne veux pas que le jeune homme soit là. Le jeune homme, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il se retire un moment. Et le jeune homme, pas ça, le jeune homme, qui apparaît comme étant un être spirituel, comprend la situation, il se retire, il s'en va, pour que Saül soit seul avec Samuel, parce que Samuel a à lui parler la part de Dieu. C'est remarquable, chers amis, comme Dieu se sert d'un épisode de peu d'importance, ces ânes qui se sont enfuis, puis qui finalement ont retrouvé le chemin du retour vers leur propriétaire. Cette petite circonstance avait comme but ceci, un entretien solennel entre Samuel et Saül. D'où cette parole entre les deux tout seuls. Le jeune homme ne devait pas être là. Le jeune homme s'en est allé, il est dit, et le jeune homme passa, « Et toi, Saül, arrête-toi maintenant, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » J'ai hâte de parler. Et alors, dans les chapitres suivants, on voit cette parole de l'Éternel qui est prononcé par Samuel, que Saül devait absolument entendre. Cette parole est de toute importance pour nous tous aussi. Écoutons-la. Toi, arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit ce soir, chers amis. Il nous le dit ce soir. Toi, arrête-toi maintenant. Je vais te faire entendre la parole de Dieu. Saül a dû s'arrêter. Il a dû s'arrêter et il a dû écouter cette parole de Dieu que Samuel avait à lui communiquer. Maintenant, arrête-toi, je te ferai entendre la parole de Dieu. Dieu nous le dit ce soir, chers amis. Y a-t-il peut-être dans cette salle quelqu'un qui n'a jamais eu affaire avec Dieu? À cette personne-là, ce soir, Dieu lui dit, arrête-toi maintenant. Je dois te faire entendre une parole de l'Éternel. Dieu a quelque chose à nous dire. Et Dieu nous invite ainsi. Il nous invite à venir à lui. Il nous invite à venir au Seigneur Jésus, le Sauveur parfait qu'il nous a donné. Dieu veut que chacun, chacune d'entre nous ici ce soir, soit sauvé, connaissant le grand Dieu Sauveur et connaissant le Sauveur parfait qu'il nous a donné. Arrête-toi. Arrête-toi ce soir, pas demain soir, ce soir. Arrête-toi pour entendre la parole de Dieu, du grand Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas seulement présenté comme appelant des âmes, comme invitant des âmes, comme sollicitant des âmes à venir à lui, mais il est aussi le Dieu qui ordonne. Or, en présence d'un ordre, et surtout s'il vient de Dieu, on n'a pas à discuter, chers amis. Dieu ordonne à tous les hommes qu'en tout lieu, aujourd'hui, il se repent. C'est la magnifique conclusion du discours de l'apôtre Paul à Athènes. Il dit du haut de l'Aréopage, il prononce le discours que nous connaissons bien, et la conclusion, eh bien, Dieu ordonne maintenant à tous les hommes qu'en tout lieu, ils se repentent. Si Dieu donne un ordre, nous ne sommes pas libres de l'exécuter ou de ne pas l'exécuter. Dieu nous donne cet ordre de venir à lui et de croire au Seigneur Jésus. C'est un ordre, c'est pas seulement un appel, c'est pas seulement une sollicitation pleine d'amour, mais c'est un ordre formel de la part de Dieu. Dieu ordonne à tous les hommes qu'en tout lieu ils se repentent. Puissions-nous, chers amis, répondre à cet appel de la parole de Dieu. Puissions-nous répondre à un tel ordre. Il faut répondre à cet ordre. Sans cela, on aura affaire au Seigneur Jésus, qui tout à la fin du discours n'est plus présenté comme étant le Sauveur, mais comme étant celui qui un jour jugera en justice la terre habitée tout entière. Acte 17, verset 31. Puissions-nous répondre à cet ordre? Il le faut, chers amis. C'est un désir que nous exprimons, mais en même temps nous disons, il faut que nous répondions à cet ordre du grand Dieu Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Arrête-toi maintenant. Saül a dû s'arrêter. Il a dû être seul avec Samuel, c'est-à-dire seul avec Dieu, seul en présence de la parole de l'Éternel. Arrête-toi maintenant, je te ferai entendre la parole de l'Éternel. Pour nous-mêmes, c'est la parole du grand salut de Dieu, de celui, nous le répétons volontairement, de celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Nous avons lu un troisième passage dans l'ordre chronologique, il s'agit de David. Nous avons lu au deuxième livre des Chroniques, au chapitre 8e, au deuxième livre des Chroniques, le troisième homme qui est appelé d'un nom que nous connaissons, David, homme de Dieu. Il est parlé de Salomon, de tout l'ordre qu'il a établi. En 2 Chroniques 8, au verset 14, il est dit qu'il a établi les classes des sacrificateurs dans leur service et les lévites dans leur charge pour louer, pour faire le service devant les sacrificateurs selon l'œuvre de chaque jour, car tel avait été le commandement de David, homme de Dieu. David a été appelé aussi homme de Dieu. David a eu beaucoup à faire avec Dieu. Il a réalisé avec Dieu une étonnante communion pour un homme de l'Ancien Testament. C'est remarquable, d'après ses prières, d'après ses psaumes, de voir l'intimité qui pouvait exister entre lui-même et son Dieu. Il est appelé David, homme de Dieu. Revenons un petit peu en arrière, nous avons le quatrième homme de Dieu, au jour de Roboam, Shemaïa nous est-il dit de lui, verset 22 de 1 roi 12, et la parole de Dieu vint à Shemaïa, homme de Dieu, disant, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple, disant, ainsi dit l'Éternel, ne montez pas et ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d'Israël. Chers amis, il a été très pénible pour le roi Roboam d'accepter la situation de son peuple, d'accepter ce schisme au sein du peuple d'Israël, deux tribus d'un côté, 10 tribus de l'autre. Deux tribus, Juda et Benjamin, ont suivi, c'était vraiment la maison de David, ils ont suivi la maison de David, et ils ont suivi donc Roboam, fils de Salomon. Mais 10 tribus s'en étaient allées sous la conduite d'un homme abominable du nom de Jéroboam. Mais Roboam n'a jamais pu accepter cet état de choses. La division du peuple de Dieu était quelque chose d'insupportable pour lui. Nous le comprenons très bien. Un schisme dans le témoignage de Dieu, à quelque économie qu'il appartienne, c'est toujours quelque chose de terrible. Ce schisme, Roboam ne l'accepte pas. Il est tout prêt de convoquer les enfants de Juda et de Benjamin et de partir en guerre contre les 10 tribus, les fils d'Israël. À ce moment-là, intervient Dieu lui-même dans la personne de son serviteur, un homme de Dieu du nom de Shemaïa. Voici Shemaïa, homme de Dieu qui est envoyé par Dieu. Le voilà qui arrive. Roboam ne fait pas cela. Ah, tu pars en guerre contre les 10 tribus d'Israël. Tu veux refaire cette unité du peuple de Dieu, ce que nous comprenons fort bien. C'est le désir de ton cœur, on le comprend très bien. Mais ne pars pas en guerre contre les 10 tribus d'Israël. Ne fais pas cela. Car, dit l'Éternel, c'est de par moi que cette chose a eu lieu. C'est ce beau passage que nous aimons à rappeler tant de fois dans nos exercices, dans nos épreuves. C'est de par moi. Le Seigneur vient nous le dire. Écoute, c'est de par moi que cette chose a eu lieu. Dans notre passage, quelle est cette chose qui a eu lieu? C'est ce schisme terrible au sein du peuple de Dieu. Mais ce schisme-là, c'est de par moi qu'il a eu lieu, dit Shemaïa, de la part de l'Éternel. Alors Roboam, il est inutile que tu montes contre les enfants d'Israël. Roboam s'est soumis, c'est très beau cela, il s'est soumis, il a écouté la voix de Shemaïa, homme de Dieu, il est rentré, tout le peuple de Juda, Benjamin, chacun rentré dans ses tentes, et on n'est pas parti en guerre. Il y a dans le livre de l'Ecclésiaste deux passages dont nous aimerions rappeler le souvenir. En Ecclésiaste 1, il est dit ceci, en rapport avec notre sujet, le schisme du peuple de Dieu. En Ecclésiaste 1, il est dit ceci, verset 15, ce qui est tordu ne peut être redressé, et ce qui manque ne peut être compté. L'homme tord ce que Dieu lui donne, et ce qui est tordu par l'homme ne peut pas être redressé. Mais le passage étonnant, l'autre passage du livre de l'Ecclésiaste, passage étonnant, c'est celui qui dit que Dieu a tordu quelque chose. Vous saviez cela? Vous saviez que Dieu était à même de tordre quelque chose? Si la parole de Dieu ne nous disait pas, on ne le croirait pas. On ne voudrait pas le croire. On parlerait même de blasphème. Parler comme ça, Dieu qui tord quelque chose. Ecclésiaste 7 nous dit ceci. Ecclésiaste 7, verset 13. Considère l'œuvre de Dieu, car qui peut redresser ce qu'il a tordu? Au jour du bien-être, jouis du bien-être, et au jour de l'adversité, prends garde. Il y a donc quelque chose que Dieu a tordu, et la plus belle illustration, cela nous a été enseigné par un frère sur le plateau, du nom de Daniel Courtial. En 1957, au sortir d'une réunion dans une grange à Villelonge, nous étions rencontrés avec notre cher frère. Et il m'avait dit ceci, « Vous savez que l'homme tord volontiers ce que Dieu lui confie. » C'est vrai. Mais vous saviez que Dieu tord aussi quelque chose. Il y a ce que Dieu a tort. Ah non, ça ne savait pas. C'est notre frère qui nous a enseigné cela. Inutile de dire que cela, nous ne l'avons jamais oublié. Eh bien, la belle illustration que notre frère donnait de ce fait que Dieu peut tordre quelque chose, c'était ce schisme au sein du peuple d'Israël. La pensée de Dieu, c'était de conserver ce peuple en un peuple, l'unité du peuple de Dieu, les 12 tribus, c'était la pensée de Dieu. Mais à la suite des nombreuses infidélités du roi Salomon, particulièrement responsable, Dieu s'est dû de provoquer ce schisme, d'ordonner ce schisme. Il y a là quelque chose de tordu par Dieu au sein du témoignage de Dieu que Dieu lui-même voulait être entier en 12 tribus et non pas 10 et 2. Dieu considère l'œuvre. Peut-on redresser quelque chose que Dieu a tordu? Il y a le jour du bien-être. Au jour du bien-être, profite du bien-être. Il y eut pour le peuple d'Israël, il y eut spécialement ce temps du roi Salomon. Ce fut le temps du bien-être. Et certainement qu'il n'y a jamais eu de temps de bien-être semblable en Israël comme au temps du roi Salomon. Mais il y a aussi le jour de l'adversité. Et le jour de l'adversité est venu quand Dieu a tordu cet ordre magnifique des tribus d'Israël, tandis que 2 sont partis d'un côté et 10 d'un autre côté. Considère l'œuvre de Dieu. Eh bien, c'est de par moi que cette chose, ce schisme, il a eu lieu de par moi, c'est de par moi que cette chose a eu lieu. Voilà pourquoi, Roboam, tu dois te soumettre. Tu aimerais faire de nouveau l'unité du peuple de Dieu, c'est un très beau désir, mais Dieu ne veut pas que tu le fasses. En tout cas, pas pour le moment. Aujourd'hui, ce schisme demeure. C'est quelque chose de tragique, chers amis, quand on y pense. Le schisme d'entre les enfants d'Israël demeure aujourd'hui encore. 2 tribus d'un côté, 10 tribus de l'autre. Roboam s'est soumis, il est rentré chez lui, les hommes de Juda et Benjamin de même ont accepté cette déclaration de Shemaïa, homme de Dieu, qui a pu dire, ainsi dit l'Éternel, c'est de par moi que cette chose a eu lieu. Nous avons donc vu Moïse, Samuel, David, Shemaïa. Nous arrivons au prophète Élie. Le prophète Élie est un homme qui apparaît sur la scène d'après le chapitre 17e du premier livre des Rois. Il sera l'homme appelé par Dieu pour parler spécialement au roi et à la reine infâme qui étaient Achab et Jézabel. En 1 Roi 17, le chapitre où nous faisons connaissance avec Élie, l'une des plus grandes personnalités de l'Ancien Testament, en 1 Roi 17, nous avons 2 parties. D'un côté, Dieu qui soutient, qui maintient en vie. C'est ce qui a eu lieu pour la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta vient vers le prophète. « Mais que veux-tu que je te fasse ? Tu me dis, fais-moi premièrement un gâteau, mais j'ai juste un petit peu d'huile, un petit peu de farine, puis c'est tout. Puis j'ai là 2 bûchettes. Mais que veux-tu que je fasse avec cela ? Nous allons manger ce que nous avons, et puis nous mourrons. » Tout l'espoir que cette veuve de Sarepta avait, mourir bientôt. Alors, la déclaration, Élie est le prophète de Dieu, il parle de la parole de Dieu, et il y a cette assurance dont s'en parle la foi, le pot de farine ne s'épuisera pas, la cruche d'huile ne manquera pas, jusqu'au jour où l'Éternel donnera de la pluie sur la face de la terre. Et c'est ce qui eut lieu, le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne manqua pas, selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite par Élie. Et ainsi cette veuve et son fils, elle avait perdu son mari. Elle était là toute seule dans ces temps sévères, ces temps de famine extrême. Elle est là bénéficiant des soins de Dieu qui est le conservateur de tous les âmes. Dans ce premier alinéa, ou les deux premiers alinéas de ce chapitre 17, verset 1 à verset 16, nous avons une vision de Dieu qui est celui qui maintient la vie. Il a maintenu la vie chez la veuve de Sarepta et chez son fils. Tandis qu'alors, dans le deuxième alinéa, nous avons la vision du même Dieu, mais qui ôte la vie. Et cela fut terrible pour la veuve de Sarepta. On le comprend facilement. Cette veuve, toute seule, son mari lui a été enlevé, toute seule avec son fils. La parole de Dieu ne le dit pas positivement, mais on n'a pas de peine à penser que toute son affection s'était reportée sur ce fils, sur ce seul fils. Et voilà que ce fils lui est enlevé. La parole de Dieu dit que la maladie devint très forte, c'est-à-dire une maladie très grave qui devait l'emporter. Il arriva après ces choses que le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie devint très forte, en sorte qu'il ne resta plus de souffle en lui. Alors, vive réaction dans le cœur de cette mère. Vive réaction dans le cœur de cette mère. Qu'es-tu venu faire ici, Élie? Es-tu venu pour remettre en mémoire mon iniquité? Ah, Dieu permettait une telle épreuve afin d'agir dans la conscience de cette veuve. On a parlé du travail de conscience samedi soir en rapport avec Joseph et ses frères. Cette épreuve est dispensée pour que cette veuve qui avait caché un péché. Elle avait péché un jour. On n'en avait rien su, elle n'en avait pas parlé. Une telle épreuve est permise. Alors, elle révèle qu'elle a commis un jour une iniquité. Es-tu venu vers moi pour mettre en mémoire mon iniquité? Pourquoi es-tu venu? Alors la veuve s'est prête de dire, c'était pas nécessaire de venir si c'était pour faire mourir mon fils. Mais voici qu'Élie intervient. La puissance de Dieu lui est accordée et il intervient, type remarquable du Seigneur Jésus. Il s'occupe de ce fils mort. Il est dit qu'il le prit de son sein et le monta dans la chambre haute où il habitait et le coucha sur son lit. Et il crie à l'Éternel. Élie ne prie pas seulement, il crie à l'Éternel, « Ô Éternel, mon Dieu, as-tu aussi fait venir du mal sur la veuve chez laquelle je séjourne en faisant mourir son fils ?» Alors il s'étend sur l'enfant trois fois, et il crie à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, fais revenir, je te prie, l'âme de cet enfant au-dedans de lui. » Il s'étendit sur l'enfant trois fois. Belle image de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Mort, pas seulement mort physiquement, mais mort dans nos fautes et dans nos péchés. Le Seigneur a pris notre place. Il s'est placé, il s'est mis à notre place. Il a pris notre place, comme le prophète, en son temps, s'est étendu sur ce jeune homme mort. Criant alors à l'Éternel, l'Éternel répond au cri de son serviteur, le prophète, et voici que Élie, l'âme de l'enfant est revenue au-dedans de lui, il vécut. Élie prit l'enfant et le descendit de la maison, de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie vient avec beaucoup de tact, avec beaucoup de délicatesse. Il lui remet ce fils. Vois, ton fils vit. Alors, le témoignage rendu par la veuve de Sarepta maintenant. À cela, je connais que tu es un homme de Dieu. Élie, désormais, apparaîtra tel qu'un homme de Dieu tout au cours de l'exercice de son ministère, qui sera essentiellement un ministère en jugement. En contraste avec le ministère d'Élisée, c'est le sixième homme de Dieu dont il nous est parlé dans la parole. Il est souvent dit qu'Élisée était un homme de Dieu. Nous saurions dire tous les passages où il est parlé d'Élisée, homme de Dieu, mais Élisée, en contraste avec Élie, a été le prophète de la grâce. Élisée est une personnalité attachante. On ne se lasse jamais de lire l'histoire sainte de cet homme de Dieu. Élisée, tellement il nous fait penser au Seigneur, tout d'abord, à celui qui est allé de lieu en lieu faisant du bien. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Puis d'un autre côté, qui par sa mort communique la vie. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de la vie d'Élisée? Voici que le sépulcre d'Élisée est ouvert. On jette un homme mort dans ce sépulcre, et voici que l'homme mort reprend vie. La fin de 2 Rois 13. Voilà que cet homme mort reprend vie. Belle image, saisissante image de notre Seigneur qui, par sa mort, donne la vie. On chante dans un cantique, par ta mort, nous avons la vie. Il a fallu la mort de notre Seigneur pour que nous ayons la vie et même la vie pour l'éternité. Nous l'avons toute, la vie éternelle. Nous savons ce que la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle, chers amis? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Qu'ils te connaissent, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissons-nous tous pour nous-mêmes la vie éternelle? Avons-nous l'assurance de posséder cette vie éternelle? Par la mort de Christ, nous avons la vie. Et cela a été déjà illustré par ce récit de 2 Rois 13 où l'on voit ce cadavre qui est jeté dans la fosse d'Élisée et qui reprend vie. Par la mort d'Élisée, cet homme a repris vie. Par la mort de notre Seigneur bien-aimé, nous avons la vie, et la vie pour l'éternité. Un épisode de l'histoire d'Élisée, où il est parlé de l'homme de Dieu, 2 Rois 8. En 2 Rois 8, nous lisons ceci. Voici que Ben-Hadad, le roi de Syrie, est malade. Il est malade, gravement malade. Écoute, dit-il à Hazaël, il faut aller vers Élisée. C'est un homme de Dieu. Il est arrivé dans la région, à Damas. Il faut aller vers lui. Et puis tu lui demanderas si je relèverai de ma maladie. Mais alors, Hazaël dit, il faut quand même avoir un cadeau pour aller vers l'homme de Dieu. On ne peut pas aller comme cela, les mains vides. Nous devons avoir un cadeau. Et quel cadeau? Quel cadeau? Il prépara un cadeau de toutes les bonnes choses de Damas, la charge de 40 chameaux. C'est pas un petit cadeau, cela. La charge de 40 chameaux, c'est pas un petit cadeau, cela. Eh bien, c'est ainsi qu'on est parti à la rencontre de l'homme de Dieu. Hazaël lui demande, dit Élisée, voilà, mon maître qui est malade, il demande s'il relèvera de cette maladie. Alors, Élisée donne la réponse, il relèvera certainement, mais il mourra aussi. La suite du chapitre nous montre comment il faut comprendre cela. Il a été malade et il s'est relevé de sa maladie, mais tout aussitôt, cet Hazaël, un homme fourbe, un sinistre personnage, l'a fait mourir en l'étouffant par cette couverture pleine d'eau qu'il a placée sous son visage. Et Ben-Hadad, ainsi, qui était guéri de sa maladie, est mort par suffocation. Parce qu'Hazaël était un immense ambitieux qui ne voyait qu'une chose, s'emparer du trône de Syrie. Mais voici que dans cet entretien où Élisée dit « Oui, Ben-Hadad se relèvera de sa maladie », voici que Élisée le regarde, il le fixe. Il le fixe tellement que le visage d'Hazaël devint tout confus. Et il est ajouté, et l'homme de Dieu pleura. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Dit Hazaël, pourquoi pleures-tu? Et l'homme de Dieu pleura. Pourquoi est-ce qu'Élisée a pleuré? Il savait qu'Hazaël deviendrait roi. Et il savait tout le mal qu'il ferait à Israël. Tu détruiras les villes de mon pays. Tu mettras à mort les femmes de mon pays. Tu mettras à mort les enfants de mon pays. Je sais que tu feras tout cela. Élisée, l'homme de Dieu, pleura à cause de tout le mal qu'on allait faire au témoignage de Dieu en ce temps-là, que l'on allait faire au peuple d'Israël, à la ville de Jérusalem. Élisée était un homme qui aimait Dieu. Et en aimant Dieu, il aimait son témoignage. Il était attaché fortement à son peuple. Il aimait ce peuple. Et en pensant à tout le mal qu'Azaël pourrait faire, il se mit à pleurer. L'homme de Dieu pleura. Et en effet, à la suite de sinistres démarches et de sinistres actions, Azaël est devenu roi en Syrie. Élisée, homme de Dieu, pleura. Voilà le sixième homme de Dieu dont la parole nous parle. Le septième, en Jérémie 35, un homme de Dieu dont on parle jamais. Personnellement, nous n'avons jamais entendu parler dans une lecture de la parole, une méditation de la parole, jusqu'à ce jour. Nous n'avons jamais entendu parler de cet homme. Et la parole de Dieu nous dit ceci, Gidalia, homme de Dieu. Il y avait une annexe dans la maison de l'Éternel, et elle appartenait à Hanan, fils de Gidalia, homme de Dieu. Et pourquoi est-ce que ce récit nous intéresse? Eh bien, c'est parce que c'est dans ces appartements que les fils de Récab ont été invités et ont été soumis à cette épreuve, l'épreuve des gobelets de vin. On a placé devant eux des gobelets de vin. Buvez maintenant. Non, nous ne voulons pas boire. Ah, vous voulez pas? Pourquoi? Notre père Jonadab nous a dit de ne jamais boire de vin, et nous n'en boirons pas. Nous avons écouté, cela est répété plusieurs fois en Jérémie 35, nous avons écouté la voix de notre père Jonadab. Eh bien, cette épreuve et où les fils de Récab se sont révélés comme étant de fidèles témoins de Jéhovah, cette épreuve a eu lieu précisément dans cette maison de l'Éternel, dans cette annexe de la maison de l'Éternel qui avait appartenu à Gidalia, homme de Dieu, et maintenant à son fils Hanan. Gidalia, homme de Dieu. Nous terminons, chers amis. Nous rappelons ces sept hommes de Dieu, Moïse, Samuel, David, Shemaïa, Élie, Élisée et Gidalia. Voilà les hommes de Dieu dont il est parlé dans l'Ancien Testament qui nous sont connus par leur nom. À côté d'eux, il y en a d'autres, il y en a même beaucoup d'autres, mais il est simplement dit, l'homme de Dieu vint, et voici un homme de Dieu arriva. Mais leur nom ne nous est pas connu. Dans le Nouveau Testament, cela a été dit hier, sauf erreur, un seul homme reçoit un tel titre, homme de Dieu, c'est Timothée. Nous l'avons dit certainement que l'apôtre Paul a été un homme de Dieu, l'apôtre Pierre aussi, et puis si nous pensons alors au Seigneur Jésus lui-même, il a été d'une façon infinie, absolument parfaite, ce qu'est un homme de Dieu. Sur cette terre, il fut vu cela, un homme de Dieu. Comme homme de Dieu, Timothée avait donc à fuir certaines choses, il avait à poursuivre d'autres choses, la justice, la piété, l'amour, la douceur d'esprit, enfin, six vertus morales vers lesquelles il devait tendre. Mais toi, ô homme de Dieu, qu'est-ce qu'un homme de Dieu? L'homme de Dieu est celui qui est appelé de Dieu, qui est suscité par Dieu pour être sur cette terre, d'une part, son représentant moral, et d'autre part, alors son serviteur, parlant de la part de Dieu et parlant aux hommes de sa part. C'est cela, l'homme de Dieu. Timothée, en son temps, l'a été. Il fut un homme de Dieu. Que le Seigneur nous donne de prendre garde à tous ses enseignements, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, et qu'il nous donne à nous aussi, chers amis, de tant d'avoir en nos cœurs ce désir d'être un homme de Dieu, d'être une femme de Dieu. Avons-nous ce désir d'honorer Dieu par un tel témoignage, être un homme, être une femme de Dieu? Eh bien, que Dieu nous donne de penser à ces exemples de l'Ancien Testament, à celui de Timothée dans le Nouveau Testament, qui nous donne cette capacité toujours plus accrue, toujours plus grande d'être dans ce monde des témoins fidèles, c'est-à-dire des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont affaire avec Dieu et qui sont heureux de représenter Dieu sur cette terre dans ses différents caractères moraux, qui sont heureux d'autre part de le servir, servir Dieu. Voilà le lot d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu. Et nous l'oublions jamais, si Dieu nous a appelle à son service, c'est un grand honneur qu'il nous accorde. Il n'a pas besoin de nous pour son service. Ne l'oublions pas. Il n'a pas besoin de nous pour son service. Un jour, il y a eu malheureusement une contestation terrible entre l'apôtre Paul et Barnabas. Ces deux serviteurs si unis pendant longtemps, les voilà qui se séparent. Pour une question d'ordre sentimental, une question d'ordre de parenté, à cause de Marc qui avait abandonné le service du Seigneur quand il avait vu les difficultés. Eh bien, Barnabas dit non, moi je ne vais pas avec toi, moi je vais prendre Marc avec moi, mon neveu. Mais Paul dit non, non, nous ne prendrons pas Marc. Bon, alors Barnabas est parti de son côté avec son neveu. Mais voici, Barnabas disparaît tout aussitôt. Deux, trois versets plus loin, tout aussitôt, voilà Sylvain qui est suscité. Tu n'as pas besoin de nous. Ah, Barnabas, tu ne veux pas suivre mon chemin, j'ai quelqu'un d'autre à ma disposition. Et voici Sylvain, Silas, qui est suscité. Marc s'en va avec son oncle, et voici Timothée qui est suscité. Tout de suite, dans les premiers versets, ce que nous disons, c'est la fin de acte 15. Début d'acte 16, nous voyons Timothée qui est suscité. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu peut s'obtenir de notre service. Il a tout aussitôt des serviteurs à sa disposition. Ne l'oublions jamais, servir Dieu est un grand honneur que Dieu nous fait